Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette émission Livre en lutte. Alors aujourd'hui, on va parler de résilience, de courage, de la banlieue, celle du vivre ensemble, celle de ses habitants avec leurs talents et leurs ressources. Alors aujourd'hui, on accueille Mada. Alors Mada, bonjour.
Bonjour.
Mada est animatrice sociale à Vitry-sur-Seine, au centre social Vitry-Haut. La directrice, c'est Camille Larive. On va la recroiser un peu plus loin dans l'émission. Je crois que tu es aussi depuis 3 ans animatrice avec des enfants à Villeneuve-Saint-Georges.
Oui, c'est
tu
ça.
Tu fais encore. Tu es aussi rôle modèle 2 fois par mois à la mission locale de Créteil.
Oui, exactement.
Alors ça, tu vas nous dire ce que c'est.
En fait, c'est... Venir, tout simplement, expliquer qui je suis, raconter mon parcours et donner de la motivation, de l'énergie, booster les jeunes pour leur dire que, en fait, tout est possible, qu'il faut tout simplement croire en ses rêves et s'accrocher et se donner les moyens d'y arriver.
Voilà, ça c'est vraiment ton message. Alors, est-ce que tu es encore membre du jury de Miss Corvie ?
Oui, toujours. Ça fait 4 ans maintenant.
D'accord, donc c'est les Miss France des femmes rondes, en fait.
C'est ça.
Alors, c'est pas fini, tu es modiste puisque tu as créé ta marque Tania Belle il y a 10 ans.
Oui.
On va en reparler parce que là, il y a un gros développement. Tu fais du rap et du slam depuis bien longtemps, on a envie de dire presque depuis toujours.
Oui, depuis à peu près 25 ans.
Voilà. Et tu vas sortir un livre, une biographie l'an dernier. Donc on va beaucoup parler de ça. Et puis, je voulais donc expliquer ton travail d'animatrice sociale. En fait, ce sont des ateliers d'écriture. Et moi, j'ai eu la chance d'assister dans le cadre du Printemps des Poètes à Vitry-sur-Seine. J'ai vu 2 de tes classes. Donc, il y avait une classe adulte.
Oui.
Et là, il faut que je raconte, parce qu'il y avait une dame maghrébine qui était retraitée et qui nous dit, je ne vais pas faire l'accent, qui dit, oui, je ne savais pas ce que je ferais à la retraite. Finalement, là, depuis que je suis dans cet asso, je ne suis plus jamais à la maison. Et vraiment, il y avait un truc. Et puis, il y avait une classe de petites filles, à l'âge où elles n'ont pas de complexe. Donc, vraiment, c'était chaleureux. Et alors, bizarrement, elles ont fait des poèmes sur la condition des femmes. Et ça a beaucoup plu au public qui était en face. Donc, toi, c'est le biais de ton travail d'animatrice, c'est par l'écriture.
Oui, c'est ça.
Alors, écoute, on va commencer par parler de ton livre, donc, qui est une biographie. Donc, tu es né à Brazzaville.
Oui.
Et dans les années 80, donc, tu rejoins ton père à Issy-les-Moulineaux.
Oui, Issy-les-Moulineaux.
Donc là, c'est pas toujours très facile.
Non,
donc...
c'est pas toujours facile. Et quand j'arrive, en fait, on me dit à partir de maintenant, tu as une nouvelle maman. En gros, il faut oublier l'ancienne, elle t'a abandonné. Ce sont les mots qu'on m'a dit. Voilà.
Alors on verra. À la fin, tu découvres qu'elle t'a pas vraiment abandonné. Il s'est passé quelque chose, on verra ça après. Et alors, bizarrement, dans les années 80, tu es la seule fille noire de ta classe.
Oui.
À Issy-les-Moulineaux, ça me paraît un peu étonnant. Donc là, ça se passe plus ou moins bien.
Oui.
Et puis, il y a pas mal de choses. En fait, alors, ta mère, celle que tu appelles ta mère, en fait, c'est pas ta mère biologique.
Oui.
Ta mère biologique, dans le livre, tu l'appelles Tanti.
Oui, c'est ça.
Et ta mère te critique parce que tu prends du poids.
Oui.
Et là, on va voir que ça a une certaine importance dans ta vie, parce que on verra que, en tant que modiste, tu as été un précurseur, puisque tu es modiste, notamment, et beaucoup pour les femmes rondes.
Oui.
Mais pas que. Donc, les adultes te reprochent d'être un peu renfermé, ça va changer. et là, tu refuses de rentrer dans leur jeu parce que ton livre est ponctué de ce que tu appelles des déclarations. C'est des déclarations que tu fais à toi-même, des engagements.
Mmh.
Et là, le premier, c'est que tu refuses de rentrer dans leur jeu. Donc, en fait, tu te renfermes parce que tu veux pas rentrer dans leur jeu, en fait.
Oui, je refusais d'être cette personne qui n'était pas moi et qui voulait que je sois.
Voilà, c'est... Alors, le sous-titre de ton livre, c'est « Celle qu'on voulait mettre en cage ».
C'est ça.
Alors, après, il y a une deuxième décision. Alors, tu as 8 ans. Donc, tu dis « Je jure de les faire mentir et de devenir quelqu'un ». Bon, on verra tout ce que tu as réussi à faire à aujourd'hui. Et puis, il se passe quelque chose. Tu as 10 ans. Et dans ta classe, il y a, on propose aux élèves d'écrire une histoire. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, à partir de là, les élèves, en fait, aiment mon histoire. Et la maîtresse remarque, trouve que j'ai quand même une plume, on va dire. Et elle me propose après de lire mon histoire aux classes de CE1, CP, CE1, d'aller lire mon histoire. Parce que je n'avais pas écrit qu'une poésie, je n'avais pas écrit qu'un texte. À la suite de ça, j'avais carrément raconté une histoire sur un cahier. Pour moi, c'était mon premier livre, on va dire.
Et en fait, dans ta classe, tous les élèves ont voté pour toi.
C'est ça.
Et je crois qu'en fait, l'institutrice veut que tu viennes quasiment chaque semaine lire un truc.
Oui, avec mon institutrice de CE1.
Donc, on voit un peu l'importance de l'écriture. Et après, bon, on passe à la sixième, au lycée. Bon, là, tu te mets à rapper dans la cour.
Oui. Oui, au lycée, en fait, je rappais. Et moi, je ne voulais pas faire une seconde générale. J'aimais tout ce qui était justement manuel, artistique, technique. Et mes parents voulaient en fait que je sois dans le commerce. Donc on m'a mis en général. Et en fait je n'y allais jamais. Je restais dans la cour. Et donc tout le monde me connaissait, je connaissais tout le monde. Et ils venaient pendant la récréation et je rappais. Voilà, je rappais dans la cour.
Ah donc tu séchais les cours, ça j'avais pas compris en fait.
C'est ça.
Parce qu'en fait, en primaire... Déjà, les gamins, ils sont un peu autour de toi.
Oui.
Dans la cour.
Je racontais des histoires.
Ah, tu racontais des histoires. Donc, toujours au collège, troisième déclaration. Tu dis, je leur prouverai que je ferai de la mode mon métier.
Oui.
Alors ça, on verra peut-être un peu plus tard. On fera une page mode. Et après le lycée, tu as 18 ans et tu as envie, tu as l'idée d'animer un atelier d'écriture.
Oui.
Et de slam en même temps, de rap, je pense.
Oui, c'est ça. En fait, on quitte Mantes-la-Jolie, Bonnières. On habitait dans une petite ville à côté de Mantes-la-Jolie. On quitte Mantes-la-Jolie, on arrive maintenant à Romilly-sur-Seine, près de Troyes, dans l'Aube. Et j'arrive et je me dis non, il faut que je transmette ce que je connais, il faut que je partage le rap avec des personnes. Et donc là, j'arrive à la mairie et je leur dis bon ben j'aimerais faire des ateliers d'écriture. Et ils me disent ben c'est pas ici, et ils m'ont dirigé vers la MJC de Romilly-sur-Seine. Et j'avais déjà... Donc quand j'arrive à la MJC, ils me disent « Ben oui, pourquoi pas, mais j'aimerais bien que vous écriviez votre projet. » Et je n'avais jamais appris vraiment à écrire des projets. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai tout simplement écrit ce que je voulais faire, j'ai expliqué, et en face j'illustrais. Et quand je suis arrivée, donc avec mes objectifs, et comme j'aimais beaucoup tout ce qui était poésie, et ben j'ai tout simplement écrit ce que je faisais et ce que je voulais apporter. Et très vite, on a mis les ateliers en place. Et le premier atelier, c'était impressionnant parce que c'est comme si tout Romilly, les jeunes étaient venus dans une petite salle. Il y avait même des jeunes de 25 ans. Moi, je n'avais que 18-19 ans. Et j'ai dit, oh là là, comment je vais faire ? Mais je ne me suis pas démontée. Et on a fait le premier atelier. Voilà.
Oui, je crois qu'il a eu beaucoup de succès.
Oui, oui. Après, bon, au départ, il y avait beaucoup de curieux dans toutes ces personnes-là. Et petit à petit, on est resté. Il y avait une dizaine de personnes qui sont restées. Et on a vraiment fait des... c'était génial parce que à chaque fois, en fait, on a continué tous les ans. Et il y a une année où il n'y avait que des filles, une année où c'était mixte, une année où il n'y avait que des garçons. Et je les emmenais après faire des premières parties de groupe et tout ça. C'était vraiment génial.
Oui, c'est ça, parce que déjà, à l'époque, vous avez un peu rayonné dans la région.
Oui.
Et je crois que ça a marqué le directeur du centre social. Je ne sais même pas s'il n'a pas écrit dans ton livre. Je crois qu'il a fait un petit mot, le monsieur
oui.
de Troyes.
Ouais. Ça, c'était après, quand je suis allée m'installer à Troyes. Et donc, pareil, je continuais. Hein. J'ai développé, en fait, des ateliers d'écriture dans toute l'agglomération dans toute l'agglomération. Et du coup, il s'appelle Ibrahim Djibo, qui fait justement la préface du livre et qui me décrit et qui dédicace, quoi.
Alors, ce qu'il faudra dire, c'est que tu as eu des moments un peu difficiles. C'est toujours été un combat en primaire, au collège, au lycée. Tu as eu des périodes de boulimie, on peut le dire. T'as
oui.
Tu as fait une petite fugue d'un mois.
Oui.
au lycée. Et il y a toujours ce combat intérieur. Et il y a toujours cette façon de vouloir se redéterminer. Et de déjà, il y a ce concept d'Amazon. Il y a ce côté zèbre, ce côté multipotentiel.
Oui.
Tu as plusieurs. Il y a plusieurs aspects dans ta vie, plusieurs talents, plusieurs aspirations. Il y a ça, et puis il faut que tu développes ton côté lionne. Alors, je n'ai même pas donné le nom de ton livre, c'est Mi-zèbre, mi-lionne.
Oui, Mi-zèbre, mi-lionne. J'ai découvert très tard mon côté haut potentiel. J'ai découvert, en cherchant en fait pour mon fils, c'est là que j'ai découvert, j'étais haut potentiel. Et plus jeune, je me sentais... à l'aise nulle part, je me sentais et c'est après quelques années plus tard que j'ai compris pourquoi. Mais comme j'avais une façon de penser différente des autres, même les professeurs me le disaient, que je n'étais pas logique, une façon différente. Et du coup, bon bah moi je me disais, au départ je pensais vraiment que j'étais un peu bizarre. Et puis après j'ai mis ça sur le compte du fait que je sois artiste, et ça m'a aidé à avancer et à l'accepter.
Alors, à 20 ans, tu lis Boris Cyrulnik.
Oui.
Donc, le monsieur qui a rendu cette idée de résilience connue du public. Sauf que chez lui, il y a souvent cette idée de main tendue. Il faut que la personne ait rencontré quelqu'un. Alors, tu as fait beaucoup de rencontres, mais chez toi, il y a beaucoup d'autodétermination quand même.
Oui.
C'est un travail sur soi. Et alors, toujours des difficultés liées à ta famille. Donc tu romps avec ton premier amoureux, parce que c'est un garçon blanc, et ta mère te pose un ultimatum, elle te dit c'est lui ou la famille.
C'est ça.
Ça a dû être un petit peu dur.
C'était très difficile, c'était très dur. C'était vraiment mon premier amour, alors c'était... Et puis on s'entendait très bien, donc ça a été très difficile, oui.
Alors ensuite... Bah, tu vas rencontrer ton futur mari, et tu écris « Mon éducation d'Amazon m'interdisait de lui faire confiance ».
Oui, parce que j'ai été élevée, comme je dis, comme une Amazon, que la femme doit être indépendante, la femme ne doit pas compter sur l'homme, et ne doit rien faire avec l'homme, ne pas faire d'achat, ne pas... En fait, être toujours sur le qui-vive et prête à partir si jamais il y a un souci, en fait. Donc, je pense que l'éducation a été bonne à la base. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut me mettre, je peux me retrouver dans n'importe quelle situation. Je pense avoir assez de ressources pour m'en sortir. Mais à un moment donné, quand on veut construire avec quelqu'un, c'est difficile. Alors, il a fallu revoir certaines choses et laisser surtout de la place à cet homme.
Oui, parce que tu disais que chez ta mère, en fait, ton père n'avait pas beaucoup de place.
Oui.
Donc c'est l'exemple que tu avais.
C'est l'exemple que j'avais, oui.
Donc, alors, petit souci, parce que bon, tu organises toute seule ton mariage avec ton mari Mohamed, et tu ne mets pas la famille au courant. Et là, bon, encore une rupture, c'est ton père qui rompt avec toi.
Oui. En fait, la famille était au courant, sauf mon père. Mais je ne les ai pas invités pour pas les impliquer dans la cacheterie, en fait. Voilà.
D'accord.
Sinon, ils étaient au courant, mais voilà, je voulais pas que mon père soit fâché contre eux, en fait.
Mais ta mère aussi rompt avec toi, je crois, à partir de cette date. Je crois que
elle est rompt avec moi quand ma mère biologique arrive.
Ah d'accord, oui c'est ça.
Oui.
Donc, Je vais citer une de tes phrases. Tu dis, lors de mes voyages, je me sentais misèbre ni lionne. Les zébrures qui me différenciaient et attiraient l'attention sur moi, en général, s'estompaient. De même, je n'avais plus besoin de protéger mes sentiments dans ce cœur de lionne. Il y a toujours ce côté, faut que tu sois très forte. Et après, comment être forte et ouverte, c'est pas facile.
C'est pas facile, oui.
Donc, voilà, en fait, en 2009, ta tante Ibe reprend contact avec toi.
Oui.
Avec un message téléphonique. Alors, sur le coup, tu paniques un petit peu, c'est quand même très fort. Je crois que tu n'oses pas tout de suite lui répondre. C'est un moment fort. Et c'est là que tu apprends, en fait, que en fait, ta mère t'a pas vraiment abandonné. C'est ton père qui a menti à ta mère. Il lui a dit, envoie-moi Tatiana. Oui. Et après, tu viendras, sauf qu'il ne l'a pas fait.
Voilà,
mais toi, tu ignorais tout ça, en fait.
Je ne savais pas.
Tu l'as su à plus de 20 ans, quoi.
Ouais.
Et ta mère, donc, pensait que c'était une chance pour toi de grandir en France.
Oui.
Donc, du coup, effectivement, oui, c'est après que ta mère adoptive t'abandonne. Alors, il y a un passage un petit peu dur, parce qu'en fait, il y a un moment, tu es enceinte.
Oui.
Tu veux aller les voir et ça se passe pas très bien.
Oui, donc je suis à 7 mois de grossesse et je me suis dit, je vais faire le pas. Parce que même si ma famille ne me parle plus, moi je vais y aller. Et je me suis déplacée, donc je suis allée jusqu'à Romilly-sur-Seine. 20 minutes de marche quand même de la gare jusqu'à là-bas. Enceinte, sous la pluie. Et quand j'arrive... mon petit frère ouvre la porte, il me dit je monte, donc c'est dans une maison, il dit je monte à l'étage et j'ai allé chercher les parents et quand il monte, il redescend en me disant ils ne veulent pas te voir.
Ouais, parce que ta mère, enfin entre guillemets ta mère, était quand même très dure avec toi très longtemps quand même.
Elle était, c'est un peu bizarre parce que moi je ne voyais pas en fait ce... C'est après... une fois qu'elle m'a laissé, en analysant et en étant mère, je me suis rendu compte que les choses qu'elle faisait, je ne pouvais pas les faire avec mes enfants. Donc c'est là que je me suis dit, c'était pas normal en fait. Et certaines situations, c'était un peu de la maltraitance. Mais avant, je ne le voyais pas parce que pour moi, elle était tout pour moi. Et tout ce qu'elle disait, c'était normal, c'était oui, j'acquiesçais tout. Et je ne voyais pas le mal. Et pour moi, c'était l'éducation.
Donc, ensuite... alors, en fait, tu es avec Mohamed, mais il part beaucoup en voyage. Parce qu'il essaie de créer un business. Donc, souvent, tu te retrouves un petit peu seul.
Oui, c'est ça. Et puis au départ, j'ai beaucoup évolué aujourd'hui, mais au départ, je ne voyais pas ça comme ça. Pour moi, il fallait qu'il reste avec moi et je ne lui laissais pas non plus la place de s'épanouir, lui. Mais je me sentais aussi, je me sentais seule.
Et quand tu as accouché la première fois de Demba, tu étais seule, je crois, c'est ça?
Quand j'ai accouché, non, il était présent.
Il était là?
Oui, il était présent. Il est arrivé au bon moment. Pendant une bonne partie de la grossesse, il n'était pas là. Et il est arrivé au dernier moment.
Alors, petit détail, tu nous dis que tu as accouché sur la chanson Redemption Song de Marley, en fait.
Oui. Oui.
Donc, bon, après, il y a des choses un peu dures que dit ta mère, je vais peut-être pas le dire. Et donc, tu rencontres beaucoup d'artistes et tu décides de créer des vêtements.
Oui. Alors, je décide de créer des vêtements. Mais au départ, comment Tania Bell est née, c'est par rapport à moi en fait, parce que je ne trouvais pas des vêtements à ma taille. Je ne trouvais pas des vêtements à ma taille et j'ai commencé à me confectionner mes propres vêtements. Et à partir de là, souvent quand je marchais dans la rue ou les gens qui me connaissaient me disaient « mais tu ne te rends pas compte que c'est beau ce que tu fais, pourquoi tu t'en fais pas aux autres, pourquoi tu commercialises pas, pourquoi tu fais pas partager quoi ?» Et c'est à partir de là que j'ai créé la marque Tania Bell. Et ça a été facile pour moi de trouver le nom. Parce que Tania, Tatiana, Tania, Bell, la belle Tatiana, Tania Bell.
Voilà. Ok. Alors moi, je vais raconter un petit peu parce que j'ai eu la chance d'assister à ton dernier défilé. Donc il y a trois choses. Au niveau des vêtements, d'abord j'en ai pris plein les yeux. Donc il faut imaginer une soirée, il y a un public déjà très looké. Alors, c'est des Africains, mais c'est pas de la sape. Ils sont lookés, plus modernes, je dirais. Il y a un DJ. Après, ça commence vraiment quand tu commences par nous faire un slam, puis un rap, où tu chantes tes peines, ta vie, ton instinct de survie.
Oui.
Et puis, alors là, comment se défiler ? Donc, tu fais surtout des bombers. Soit des bombers courts, soit des bombers longs. Et alors, on commence avec un petit pied de poule, tout sage. Après, il y a un motif Paisley de bandana. Et puis, après, arrivent les tissus africains, un petit peu en mode patchwork aussi.
Oui.
Après, j'ai vu des tissus brodés, très brodés, des tissus décrevés avec des choses dedans, des trous, des jeux de transparence, et puis arrive ce que j'ai appelé le bombers de mariage, donc un magnifique bombers en transparence, porté par une mannequin qui a une jupe en tulle à volant, je crois vert fluo un peu pâle, et c'était vraiment terrible. Et immédiatement après, on a un bombers long, et là la mannequin le porte avec une jupe en tulle noire par-dessus, en fait.
Oui.
Parce que des fois, tu mets des ceintures bombers longs. Oui. Et là aussi, c'était assez terrible. Donc après, petite pause, remusique. Et après arrive la série Sec Walks. Donc on a compris, c'est des walks et des sequins. C'était magnifique, en fait. Oui. Les gens...
En fait, ce que je voulais faire, ouais. Parce qu'on voit beaucoup de wax depuis quelques années, on voit beaucoup de wax. Le wax est à la mode et beaucoup de mes clientes demandaient souvent du wax, donc je faisais, mais pas avec une certitude, ça plaisait. Hein. Le tissu en lui-même plaisait, donc je faisais, mais je voulais faire quelque chose d'original et j'ai laissé mûrir. À chaque fois, je me dis, il faut mettre la graine et le subconscient fini, en fait, et me propose quelque chose. Et effectivement, l'idée m'est venue de mélanger le sequin avec le wax et faire des incrustations. Et par contre, c'est les tissus, quand je prends les deux tissus, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Et donc, je les mélange, je couds, et au final, ça fonctionne. Et il y a un bomber, je n'étais pas sûre, je ne sais pas si tu te souviens, c'est un bomber bleu avec des petits imprimés rouges. Et celui-là, on hésitait à le mettre parce qu'il était complètement différent des autres. Et je trouvais que les deux tissus ne fonctionnaient pas. Et quand on l'a mis sur le mannequin pendant le défilé, avec le rouge à lèvres bleu, mais c'était magnifique.
Ça, c'était Keshia, ça.
C'était magnifique, oui, c'est ça.
Ouais.
Oui.
Ah oui, parce qu'il faut... Donc, il y avait des mannequins en ronde, mais il y avait aussi des garçons.
Oui.
Il y avait d'ailleurs un garçon, un Asiat, là, petit.
Oui.
Alors lui, il a surkiffé son défilé. Il a beaucoup interagi avec un photographe.
Oui.
Et d'une manière générale, moi j'ai discuté avec les gens, bon, ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Et il y avait aussi des femmes longilignes, hein, Keshia, elle est plus grande que moi, ce qu'ils commencent à faire pour une fille. Et c'est marrant. Alors, il y a justement un deuxième aspect de la soirée. À un moment, tu as dit que tu étais en famille et tu as donné la parole à plein de personnes différentes. Donc, je vais en citer quelques-unes parce que ta vie est faite de rencontres. Alors, tu n'as pas donné la parole à... Enfin, tu n'as pas présenté la directrice du centre Vitrio, donc Camille Larive, mais elle était là, habillée par Mada. Donc Mada, c'est ton nom de scène. Et elle a bien kiffé aussi sa soirée. Et donc, tu as donné la parole à Ayele Goram, qui t'a aidé à écrire le livre. En fait, elle est écrivain public, elle accompagne les écrivains auto-édités. Ouais. Elle a fait 3 livres elle-même. Après, tu as appelé tes copines de Mantes-la-Jolie, je crois.
Oui.
Tu nous as dit que c'était les premières chez qui tu as chanté du rap.
Oui.
C'était 3-4, c'était très mignon. Donc, il y avait d'autres personnes, la créatrice de bijoux. Il y avait celui qui produit un petit peu au niveau musique.
Oui, parfait.
Et puis, la soirée était animée par Mélina Koné, qui avait chanté un titre en duo avec Ménélique. Si c'est moi qui chante le refrain, les gens vont pas reconnaître. Reste cool bébé, tu nous fais le refrain.
Oui, tu es la seule qui m'aille. Je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye.
Voilà. Donc apparemment les gens connaissaient tous. Et alors l'histoire de Mélina Koné, c'est que pour percevoir les droits de cette chanson, elle a dû faire un procès, qu'elle a gagné d'ailleurs avec, des indemnités.
Oui, elle a eu des indemnités.
Oui, je ne sais plus comment. Et dans la chanson, la première phrase de la fille qui chante, c'est « J'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur ». Bon, je pense que c'était un peu prémonitoire. Et donc, elle-même donc, a arrêté le rap. Elle a un site, elle a fait beaucoup d'animations radio et télé, jusqu'à 7 web radios en même temps, maintenant elle est coach, et sur son site, elle se décrit elle-même comme une femme multipotentielle, ce qui est tout à fait ton cas, et il y a une petite, forcément il y a une correspondance, il y a un parallèle. Et ce que je voulais dire, pour terminer sur ce côté famille, c'est que c'était une soirée très chaleureuse, mais vraiment quoi. Et alors moi j'ai discuté avec des gens, et ils ont tous aimé, et en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que même les personnes qui ne te connaissaient pas, qui connaissaient Keshia ou qui connaissaient telle autre personne, en fait ils venaient de banlieue aussi, du 92, hein, pas forcément du Val-de-Marne. Et ce que j'ai vu dans ce défilé, avec tous les intervenants, moi j'ai vu la banlieue, avec ses talents, ses ressources, tous ces gens qui savent faire des choses. Alors, tous les deux, on a des activités à Vitry-sur-Seine, donc c'est une mairie du vivre ensemble, il y a plus de 300 associations, peut-être pas toutes très actives. Au Centre culturel de Vitry, qui est une émanation de la mairie qui soutient les associations, par la communication, une affiche, parfois un peu de quelques sous pour faire une initiative, il y en a 110 ou 120 qui sont référencés. Et donc moi, je les connais pas toutes, hein, mais je me rends bien compte que derrière chaque asso, une asso, un objet, un statut, et en fait, dedans, il y a encore d'autres personnes qui bossent dans d'autres associations et qui ont des talents, qui sont des créas, qui savent faire des choses, qui ont des ressources. Et c'est incroyable. On a du mal même à référencer tout ça. Incroyable le nombre de ressources qu'on trouve chez les gens de tout ça. Quoi. Et moi, c'est ce que j'ai. C'est ce côté banlieue aussi qui m'a plu. Donc ça fait 10 ans maintenant que ta marque Tania Belle existe.
Oui.
Donc là, apparemment, c'est en plein essor. Tu fais un autre défilé.
Oui. Alors, il y a un défilé qui est prévu le 14 mai. Donc, il est prévu à Montreuil. Ça s'appelle Lady Boss. Et en fait, c'est un défilé qui est prévu, c'est Queen Boss. Ce sont des femmes entrepreneuses qui viennent et qui préparent, qui présentent en fait leur travail. Voilà.
Très bien. Donc c'est un peu ce qu'on a vu aussi sur ton défilé. Plein de gens se sont rencontrés qui ont déjà travaillé en commun sur des projets, même sans le savoir d'ailleurs, ou sur des mêmes web radios. Il y a ces synergies, quoi. Il y a ces choses à mettre en place pour que les gens s'associent et fassent ces choses ensemble. Moi, je pense que c'est très important dans le milieu associatif. Je pense que c'est pas encore assez développé. Donc, Tania Belle a un site.
Hein, c'est www.taniabelle.fr.
Donc on voit une partie de tes créations.
Oui.
J'ai eu plein d'autres choses sur le défilé. Alors tu as aussi une date, le 18 mai. Donc là on retourne du côté de l'écriture et du slam.
Oui, le 18 mai, donc ce sera le concert. Donc en première partie, les classes, comme tu les appelles, les classes qui vont passer et qui vont montrer le travail qu'elles ont fait avec moi. Et ensuite, je vais donc rapper, slammer. Et il y aura également des personnes qui vont défiler aussi. Il y aura des vêtements. C'est vraiment mon univers, encore une fois de plus.
D'accord. Donc ça se passe au SOB. Le SOB, c'est le site des musiques urbaines à Vitry, en face de la mairie. Il y a un tramway, c'est très facile d'y aller.
C'est ouais.
Il y a encore des choses, d'autres choses à venir. Alors dans le livre, on va continuer un peu avec ton livre. Donc il y a le côté biographie. Avec un gros message, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et puis, il y a une liste de récits sur des thèmes. Donc, il y a un poème, il y a l'histoire du Kitsungi. C'est l'art, un art japonais. Tu veux, si tu veux nous lire le texte.
Oui, je vais vous le lire. Connaissez-vous le kintsugi, une technique ancestrale qui est née au 15e siècle au Japon? Sans rentrer dans les détails, cet art consiste à réparer des objets cassés en soulignant leurs failles avec de la poudre d'or au lieu de les masquer. Ce processus est long et minutieux. Il demande de nombreuses étapes. Je suis le résultat du kintsugi et j'utilise comme or mes mains, mes mots et ma voix. La couture, l'écriture, la musique par Tania Bell, mes écrits et mon rap. Effectivement, il m'a fallu de nombreuses années pour devenir ce que je suis aujourd'hui. L'art du kintsugi rend l'objet cassé encore plus beau qu'à l'origine. Il est soigné, honoré et encore plus solide qu'avant. Mon petit cœur d'enfant a été brisé, mais la lionne l'a réparé. Aujourd'hui, j'assume mon passé, mes failles et mes plaies. Mes cicatrices dorées font de moi une kintsugi, une résiliente. Je suis Mada l'Amazone.
Merci Mada. Alors là, je malheureusement, donc tu viens de sortir un EP avec plein de titres. J'ai pas réussi à les télécharger. Enfin bon, j'ai eu un petit souci technique. Donc là, je vais passer une petite chanson.
Oui.
On va faire une petite pause musicale. Alors j'ai trouvé un CD. Je l'ai trouvé chez Livre en Lutte, la librairie de Vitry. Ça a été enregistré en live en 2003. Donc c'était, je crois, pour la fête des Lilas. Et donc il y a 15 groupes. Alors je pense que c'est un petit peu occasionnel. Je suis pas sûr qu'ils aient fait beaucoup de carrière, forcément, chacun. Et je vais vous passer un de ces titres.
Trio 2003, est-ce que Vitry vous êtes pour la paix? Ok, alors que les politiciens de nous se soucient guère, il faudrait plus de médecins, car ici c'est la guerre, sur mes frères de sang, pour les sous. Je raconte ces blocs de béton, je viens de ces quartiers, disons, sensibles, ces cités où se ressent le mal de vivre, par nécessité, essayant de survivre, les miens. Kiff, piloter les gros bolides, avoir à portée de main les gants et un gros brolique sur un péra sanglant et torride pour les vrais qui font pas semblant. Au mic dédié aux rappeurs, aux artistes, aux braqueurs, les grossistes qui n'ont pas peur quand ils assistent à leur jugement aux assises. Ici, rien que ça bédave, pire que les Kofi d'Adam, ça se dégrade d'après les dires de Kofi Annan. Alors que j'ai autant d'ennemis que Saddam, je place à mes refrains avec qui je m'allie un salam. Au moment où le Glock a pris le relais de la lame, sache que chez moi, le bloc de shit s'est fait doubler par la cam. On trinque, souffre, étant étranger. Je crois pas que ce soit 25-12 que ça va changer. Dans ces blocs de béton que l'on nomme ghetto ou béton, les mots très tôt. On trinque, souffre, étant étranger. Je crois pas que ce soit au 25-12 que ça va changer. Dans ces blocs de béton que l'on nomme ghetto ou béton, les mots très tôt. Ici, plus de peine que de joie lorsque je m'aperçois que ceux qui connaissent fleurissent le châtiment sont ceux qui naissent dans un bloc fleuri de bâtiment. Ma plume crache, fait pleurer le fond de la vérité. Ce que le bitume cache, le ré au plus profond de la cité. Enfermé, mais mettant libre, prisonnier, ce système qui nous fait tant souffrir. On livre une guerre pour s'en sortir. On pense à nos mères qui ont souffert en nous portant 9 mois et nos pères qui ont ouvert leur cœur avec autant d'émoi. Je décris la rupture des cultures qui a poussé les hommes à s'exclure. On trinque, souffre étant étranger. Je crois pas que ce soit au 25-12 que ça va changer. Dans ces blocs de béton que l'on nomme ghetto ou béton, les mots très tôt. On trinque, souffre étant étranger. Je crois pas que ce soit au 25-12 que ça va changer. Dans ces blocs de béton que l'on nomme ghetto ou béton, les mots très tôt. Ce rap, c'est pour ceux dont les portes sont fermées depuis un moment. Pour mes potes enfermés notamment, dédiés à ces escortes aux miens qui ont souvent les menottes aux mains. Dans cette société, depuis gamin, on n'est pas conforme aux normes. Car rebeux, renois et gaulois d'une cité pleine d'effroi, sensible, en difficulté. Pas trop de bourgeois dans nos cités, mais plutôt des cas sociaux excités. Car je viens de là où on tourne aux barreaux, dans un monde qui ne tourne pas rond. Comme dans le passé, on a la même amertume, et toujours pas assez de thunes. On trinque, souffre, les temps étrangers. Et je crois pas que ce soit au 25-12 que ça va changer. Dans ces blocs de béton que l'on nomme ghetto ou béton, les mots très tôt. On trinque, souffre, les temps étrangers. Et je crois pas que ce soit au 25-12 que ça va changer. Dans ces blocs de béton que l'on nomme ghetto ou béton, les mots très tôt. On trinque, souffre, étant étranger. Et je crois pas que ce soit 25-12 que ça va changer. Dans ces blocs de béton que l'on nomme ghetto ou béton, les mots très tôt. Vitry, est-ce que vous avez aimé 9-4 commando, Vitrio 2003, Warrior Brahms.
Alors c'était 94 Commando, nom du groupe, et la chanson c'était Bloc de béton. Donc un live de 2003, Fête des Lilas, à Vitry-sur-Seine. Alors tu t'es identifié à une un zèbre, à une lionne,
oui.
Et il y a le côté Amazon qui est très important chez toi.
Oui.
Donc dans le dans ton livre, je dis après ta biographie, il y a tout un tas de petits textes. De récits, de poèmes ou de petites choses que tu tiens à définir. Et notamment les 10 règles de l'Amazon.
Oui, alors j'ai établi les 10 règles de l'Amazon qui est: j'ai confiance en moi, je prends soin de moi, je prends soin de ceux que j'aime, je suis indépendante, je suis actrice de ma vie, je vis l'instant présent, je connais ma mission de vie, je partage, je donne, j'investis sur moi et je m'aime. Voilà les 10 règles de l'Amazon.
Donc c'est celle que tu as constituée au fur et à mesure,
oui.
Parce que tu te considères comme une animatrice sociale et aussi comme une coach de vie.
Oui, c'est ça. C'est ça, j'accompagne. Et ce que je fais avec les missions locales, ça rejoint exactement, justement ça rejoint ça. Et quand j'explique aux jeunes que peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, il faut vraiment croire en ses rêves et croire en son potentiel. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, en fait. J'avais la foi et je me disais que peu importe ce qui me tombe dessus, peu importe les obstacles, c'est à l'intérieur qu'il faut retrouver, en fait, qu'il faut aller chercher les ressources. Et c'est ce que j'explique autour de moi, les personnes que je rencontre, les personnes que je coach, c'est ce que je leur explique. Voilà.
D'accord. Et côté écriture, en toi-même, tu as dit que tu as écrit que le rap a sauvé ta vie. Et côté écriture, les gens pour qu'ils puissent s'exprimer, se découvrir, s'exprimer, après tu leur apprends aussi à slammer.
Oui.
Et puis, il y a côté coach, les leçons de vie, quoi. Oui. Et ne laisse personne te dire que tu ne peux pas le faire.
C'est ça, c'est ma phrase.
Alors, il se passe encore une chose, après les défilés, après les concerts au sub, etc., ce mois de juin, tu vas partir au Congo.
Oui, c'est ce que j'arrête pas de dire, que c'est le voyage de ma vie. Voilà, il m'a fallu quand même 10 ans pour me préparer, pour être prête maintenant à aller rencontrer ma mère biologique. Et voilà, donc c'est beaucoup d'émotions, et donc je pense qu'il va falloir vivre l'instant présent, même si c'est beaucoup de peur, mais voilà, c'est accueillir toutes ces émotions, et puis après ça va être de les gérer sur place, quoi.
Oui, tu vas te jeter dans le bain, je pense que ta mère a autant le trac que toi. Et c'est drôle que maintenant tu retournes la voir et que tu as accompli, en fait, chacune des décisions que tu as prises, ce que tu appelles tes déclarations dans ton livre. Bah maintenant tu y es, en fait. Et il y a ce côté, je vais pas dire que maintenant c'est toi la maman, mais on n'en est pas loin. Et ouais, je pense que ça va être très fort. Et donc, tu as prévu d'en faire un livre.
Oui, là j'ai commencé à écrire donc le deuxième livre et où je raconte mes comme je l'ai dit tout à l'heure, mes peurs, mes appréhensions et comment je vois en fait la suite. Et le but après c'est de prendre son ressenti à elle, parce que le premier livre c'est une petite fille qui découvre que sa mère ne l'avait pas abandonnée et qui vit sans sa mère. Et le deuxième livre, ça va être son point de vue à elle aussi. Voilà. Je vais aussi pour recueillir son point de vue.
Ah, tu lui donnes la parole, en fait. Oui. Son expérience à elle.
C'est ça.
Ah, d'accord. Donc, tu as prévu de faire des conférences là-bas, tu vas essayer ?
Oui, je vais essayer. Je vais essayer. Donc, j'ai pris quelques contacts, je cherche. Après, on va voir comment ça va réellement se passer sur place. Parce qu'il faut dire que, du coup, c'est un pays qui m'est complètement inconnu. Je ne suis jamais retournée là-bas depuis que je suis arrivée. Je suis arrivée à l'âge de 4 ans. Et 40 ans plus tard, je retourne. Mais voilà, donc c'est un peu... Je vais essayer, je suis assez active et le but c'est de raconter cette histoire parce que je pense que cette histoire peut donner beaucoup de force aux personnes qui à un moment donné n'ont plus d'espoir et se disent bon ben on ne peut plus y arriver, là c'est vraiment une preuve que tout est possible quoi.
C'est maintenant en fait que tu peux accueillir toutes tes émotions. Parce que là, tu vas te jeter dans le grand bain et les gérer, parce que c'est pas facile, et tu sauras en profiter. Alors, tu m'as dit que tu ferais une cagnotte, tu essaierais pour aussi, là-bas, essayer d'offrir ton livre.
Oui, c'est ça.
C'est très bien. Donc, sur quoi on pourrait continuer ? Donc, tu as aussi une autre expérience, une expérience d'entrepreneur.
Oui, oui, oui. En fait, c'était pas évident parce que au départ, ben moi j'ai pris ce que j'avais, c'est-à-dire ces talents bruts. Je fais aussi de la peinture, de l'écriture, de la couture. J'ai pris ces talents bruts et la première des choses c'était de créer, de m'exprimer par ces créations. Mais à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas en vivre ? Et pour en vivre, eh ben il faut structurer. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui ont pu m'aider à le faire.
Et
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération Anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.